Je vais bientôt expliquer ce que c'est l'expression que Clarissa a partagée. Mais avant, j'aimerais commencer avec un petit quiz. Il y a une référence biblique dans notre bague de mariage. Et j'aimerais faire cette question. Quel est le thème du verset de la référence qui est inscrit dans le bague de mariage? Du coup, amour, joie, fidélité ou courage? Je vais passer un par un. Et puis, on va voir qui c'est qui vote pourquoi. Et ensuite, je donne la réponse. Alors, qui pense que le thème du verset inscrit dans le bague de mariage est amour? Lève la main. Qui pense que c'est la joie? Un vote pour la joie. Qui pense que c'est la fidélité? Ok, 4, 6, 7, 8, 9 pour la fidélité. Et qui pense que c'est le courage? La majorité, vous avez raison, bravo. C'est à propos de courage, le verset, la référence du verset qui est là. Et puis c'est le thème du message d'aujourd'hui, Josué 1, 6 à 9, qui parle du courage. Il y avait plusieurs peurs avant de commencer à fréquenter, à s'engager dans une relation. Et le Seigneur nous a encouragés avec plusieurs versets. C'est pour ça qu'après, pour le mariage, on a choisi celui qui parle du courage, qui vient de la certitude de la présence de Dieu partout où on ira. Et dans la région du Brésil où ma femme est née et où j'ai vécu 20 ans, il y a cette expression « un chèvre ». Chèvre en portugais, c'est comme en français, c'est féminin, c'est une chèvre, pour quand on parle de l'animal. Mais juste dans cette région du Brésil, il y a l'expression « un chèvre » pour dire un homme, quelqu'un. Par exemple, on peut dire « c'est un bon chèvre ». Ça veut dire que c'est un homme de bien. On dit « c'est un bon chèvre ». C'est vraiment la campagne qui disent comme ça. Hein. Ou bien « c'est un vieux chèvre ». Ça veut dire que c'est un homme vieux ou un homme âgé. Et puis, ça s'utilise vraiment beaucoup dans cette région. Et dans les autres parties du Brésil, ça ne s'utilise pas. Et puis, il y a cette expression pour encourager ceux qui sont peureux, juste dans cette région. Et puis, ils disent, sois un chèvre mâle, pour dire, sois courageux, sois un homme. C'est un peu ça. Et puis, ils utilisent ça, sois un chèvre mâle. C'est pas pour dire, arrête d'être un lâche. Et puis, ils utilisent cette expression-là. Et puis, c'est une région qui, surtout à la campagne, à cause de la sécheresse, il faut exercer ce courage. Ça, c'est la région nord-est du Brésil. C'est dans cette région qu'il y a cette expression d'utiliser le mot chèvre au masculin pour dire homme. Et c'est dans cette région-là où, à la campagne, il y a eu longtemps et encore aujourd'hui un peu la sécheresse. La prochaine image montre les chiffres de 2025. En septembre, là, c'était... Du coup, c'est classifié ici, la grande majorité, une grande sécheresse. C'est les niveaux de sécheresse qu'il y a. Du coup, blanc, ce n'est pas de sécheresse. Jaune, c'est vraiment faible. Et puis après, ça va modéré, grave, extrême et puis exceptionnel. Du coup, cette année, c'était assez normal. Nous, on était tout au bord de la mer, là où il n'y a pas de sécheresse. Mais en 2016, par exemple, le prochain... Ça, c'est le nord-est, hein, que le nord-est. Du coup, là, c'était vraiment presque toute la région. La région tout au bord de la mer, c'est encore orange. La couleur ne donne pas très bien, là. Mais le vrai dur, c'était ce centre-là, la campagne, où il y a eu beaucoup de sécheresse. Et puis, à la prochaine image. La plus grande sécheresse qu'il y a eu, c'était en 1915, qui a été registrée, en tout cas. Et puis, il y a un livre qui a été écrit d'une auteure... qui est célèbre, qui est devenue littérature nationale obligatoire à l'école. Ça s'appelle O 15, le 15. Et c'est une histoire qui a été écrite en se basant sur cette grande sécheresse qu'il y a eu dans cette région du Brésil. Et dans ce livre, il y a Chico Bento, qui est un des personnages, qui à cause de la sécheresse, il doit quitter la ferme avec sa femme, ses trois enfants. Puis il traverse beaucoup de difficultés dans ce voyage. Il perd même un de ses enfants. Et dans cet extrait, dans un extrait, Chico Bento parle à son épouse de la nécessité d'un changement. C'était plus possible de rester dans leur région à cause de la sécheresse. Et son rêve, c'est d'aller s'installer en Amazonie. Il pourrait travailler en extrayant du caoutchouc. Et j'ai écrit ce petit extrait, et puis il disait comme ça: il ne restait plus qu'à Chico Bento un seul recours, s'en aller. Sans légumes, sans services, sans moyens d'aucune sorte, il n'allait pas rester et mourir de faim à cause de la sécheresse qui durait. En plus, le monde est grand et il y a toujours du caoutchouc en Amazonie. Haute nuit, dans la chambre fermée où une lampe mourante était allumée, il s'est mis en accord avec sa femme sur le plan de départ. Elle l'écouta en pleurant, essuyant sur le balcon ses yeux aveuglés par les larmes. Chico Bento, dans la confiance de son rêve, a cherché à l'animer en lui racontant les 1000 cas de migrants enrichis dans le Nord. La voix lente et fatiguée vibrait, se levait, semblait différente, embrassant projet et ambition. Et l'imagination optimiste aplanissait les routes difficiles, oubliait l'ennui de son pays, la faim et l'angoisse, et pénétrait l'ambre verte de l'Amazonie, vainquait la nature brute, dominait les bêtes sauvages. Elle le rendait riche et victorieux. Donc Chico Bento disait: je vois toute la souffrance qu'on vit ici. On a déjà eu assez, on doit partir parce que là-bas, dans le nord, ah, là-bas, il y a de la pluie, il y a du vert, il y a de la nourriture, il y a du travail. Il a visualisé un pays lointain et savait qu'il pouvait, ce pays pouvait lui donner le meilleur pour lui et pour sa famille, mais là-bas, pas ici. Et dans la saga de Moïse, de Josué et le peuple d'Israël dans la Bible, Dieu a fait exactement ça avec le peuple. Il a vu leur souffrance en tant qu'esclave en Égypte et a déclaré qu'ils devaient partir pour une terre qu'il leur avait préparée déjà en avance. Sur une montagne, dans une région désertique, un peu comme cette région de sécheresse du nord-est, Dieu illumine l'endroit avec un buisson qui ne brûle pas et il dit: j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un beau pays et grand qui déborde de lait et de miel. C'est Dieu rêvant pour son peuple. Il dit: je vois votre souffrance, cela ne fonctionne plus ici. Mais là, il y a une bonne terre, une grande terre, c'est un pays riche, où vous aurez du lait à volonté, des raisins, le meilleur miel. Et dans notre propre vie, on a tous des zones qui sont dans la sécheresse. Dans le désert, elles ne produisent rien de profitable. Parfois, c'est un trait de notre caractère que chaque fois que quelqu'un le croise, fait sécher toute la joie de l'autre personne. Ça peut être un manque de transparence. Ça peut être un esprit critique. Ça peut être la dureté dans les paroles. Ça peut être une obstination têtue ou un manque de pardon. Et c'est sec à cause de ces traits de caractère. D'autres fois, c'est une mauvaise habitude qu'on traîne depuis de nombreuses années. Et puis, c'est sec. Ça porte la sécheresse, pas seulement pour nous, mais pour les personnes autour de nous. Parfois, c'est une vie d'égoïsme et de péché qui blesse nous-mêmes et qui blesse les personnes qui sont proches de nous aussi. On a tous des zones sèches comme ça dans notre vie. Et ce que Dieu nous dit, c'est: ça va plus, Chico. Rester ici, c'est pas bon. Il est temps d'abandonner complètement tout ça et de marcher vers ce que je veux te donner, pour ce qui est ma volonté pour ta vie, le pays là-bas. Mais tout comme la femme de Chico a pleuré quand elle a pensé au défi de quitter sa maison, d'abandonner ses terres, de traverser le pays, Moïse avait aussi peur. Il ne voulait pas y aller, il pensait qu'il ne s'en sortirait pas. Et combien de fois on a trop peur de laisser derrière nous ce qui nous fait du mal, déjà maintenant. On se cramponne à ce qui semble être plus sûr. Parce que marcher à travers les cactus et les buissons semble être trop agressif, trop aride, trop épineux. Mais quand on refuse d'avancer, c'est parce qu'on ne connaît pas vraiment Dieu. Parfois, on a l'impression que si on se donne totalement à Dieu, il va prendre notre maison, notre argent, notre plaisir, il va nous envoyer en Tanzanie et à la fin, on va être dévoré par des cannibales ou attaqué par des babouins. Bon, en parlant de babouins, sache que si Dieu t'envoie en Tanzanie et que tu rencontres des babouins, tu as déjà rencontré des babouins, Laurence?
Non? Oui, dans les parcs, mais...
Si Dieu t'envoie en Tanzanie et que tu rencontres des babouins, c'est bon savoir qu'ils sont très dangereux. Ils ont des dents aiguisées, une morsure forte, ça peut casser un os d'un adulte, ça peut même le tuer, les babouins. Alors, très important, c'était des conseils pour les jeunes, mais je vais vous donner à vous. Voici quelques conseils pour te protéger si ça t'arrive. C'est quand tu marches dans un sentier, dans la jungle, un babouin croise ton chemin et commence à faire un bruit étrange. Voici quatre étapes pour s'en sortir. Reste calme, lève-toi et montre que tu es fort et confiant. 2. Surtout ne montre pas les dents, parce que sinon il va penser que c'est une agression. S'il te pique de la nourriture ou d'autres objets, n'essaie jamais de les récupérer, laisse-les partir. Et 4. S'il continue à avoir l'air agressif, debout, montrant ses dents, faisant des bruits menaçants, et s'il avance contre toi, évite tout contact visuel et marche lentement en arrière sans se tourner les dos. Voilà. Si c'était la peur de commencer à cheminer avec Dieu, tu as une astuce pour s'en sortir. Mais oui, il y a des gens qui commencent à servir Dieu, qui sont envoyés à l'étranger. Andrew a parlé dimanche dernier. Mais très souvent, ce sont des pasteurs, ils sont en paix pour partir, c'est des missionnaires. Mais il a aussi dit dimanche passé que très probablement, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Très probablement, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est ici. Et tout ce qu'il va te demander de faire, c'est pour ton bien et pour le bien des personnes autour de toi. Et ça commence intérieurement, par des choses qu'il va te demander de changer ici, à l'intérieur. Quand on pense que Dieu gâche notre vie, c'est quand on ne le connaît pas vraiment. Est-ce que tu n'as jamais entendu ce verset d'encouragement à quelque part ? En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pour le bien qu'il veut nous faire changer. S'il nous demande de changer un aspect de notre caractère ou de mettre fin à une mauvaise habitude en développant une plus grande discipline, c'est pour ton propre bien. C'est pas pour te faire du mal, en fait. Et Dieu ne veut certainement pas mettre fin à ton plaisir de vivre ou voler les bonnes choses de la vie. C'est tout le contraire. Il veut te donner une joie complète, la vraie vie, la paix dans n'importe quelle situation. Une vie qui a le plaisir d'être pleine de sens parce qu'elle bénit aussi d'autres personnes. À mesure qu'on change, on bénit plus d'autres personnes autour de nous. Et ce n'est pas seulement au niveau spirituel. Mes parents, eux, oui, ils ont été envoyés à l'étranger, au Brésil. Et une de mes premières préoccupations de ma maman, c'était les études des enfants. Parce que directement immatriculé dans une école, il fallait portugais. Puis elle était angoissée. Mais comment ils vont réussir? Comment ils vont apprendre sans savoir la langue? Et puis elle a dit que le plus grand encouragement, du coup, ils ont deux grandes filles avec une année de différence. Et puis, ils ont été dans la même classe. Et l'aînée, à la fin de l'année scolaire, la maîtresse a appelé ma maman et puis elle a dit, je ne sais pas comment, mais c'est ta fille qui a eu le meilleur résultat scolaire de la classe. ce qui était absolument impensable. Puis ma mère, elle a dit, ben, Dieu prend soin aussi de choses terre à terre. Voilà, c'était au niveau intellectuel qui était important pour ma maman à ce moment-là, pour ses filles. Et c'était pour elle une réponse, Dieu prend soin de mes filles. Je peux avancer en paix. C'est pas seulement au niveau spirituel. Et beaucoup plus tard aussi, déjà depuis que j'étais enfant, elle parlait de son rêve d'avoir une maison. Elle dit, et puis elle m'encourageait à être médecin. Elle dit, ce serait bien que tu sois médecin, comme ça tu pourras un jour acheter une maison pour moi avec une piscine. Et je serais très contente. J'ai dû la décevoir. J'ai vraiment pas choisi ce métier-là. Mais à la fin, après la retraite, ils ont pu construire une maison. Ils ont choisi de ne pas mettre une piscine, mais plutôt un grand jardin pour mon père cultiver des choses. Et ça aussi, ils considèrent comme une bénédiction de Dieu. Dieu aussi prend soin, même de ce rêve, qui finalement, s'ils n'avaient pas une maison, ce n'était pas grave. Ce n'était pas le but ultime d'une vie. Mais Dieu est aussi béni dans ce sens-là. Ils ont pu la construire et ils l'ont appelé ciel bleu, leur maison. Mais je comprends que ça fait peur de quitter certaines régions de notre être intérieur, parce qu'il y aura certainement des difficultés aussi, bien sûr. On sait qu'on va devoir faire face au soleil brûlant pendant le chemin. On aura aussi des pertes, des difficultés après avoir décidé d'abandonner cette zone de notre vie actuelle. Je ne vais pas vous mentir, ça va arriver. Il y aura des souffrances aussi. Et Josué, le successeur de Moïse, l'a vécu. Sur le chemin de la terre promise, il a perdu son chef, son ami Moïse. Et c'est maintenant à lui de guider ce peuple pour traverser la rivière, se battre pour prendre possession de la terre. Et il avait aussi peur. C'est tout à fait normal, tout à fait humain. Ça semblait pour lui, pour Josué, une tâche trop dure à vivre, à faire face. Mais c'est là que Dieu a dit ce fameux verset. Il n'a pas dit parce que Josué était courageux. Il a dit parce qu'il avait besoin de courage, Josué. Et il lui dit, sois fort et très courageux. Et force-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Et là, ça montre, ce n'est pas une force extérieure en premier, c'est une force intérieure en premier. Et force-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. En d'autres termes, sois un chèvre mâle, il était en train de dire. Ou en bon français, bouge tes fesses et vas-y, parce que je suis avec toi. Dieu veut que les hommes et les femmes aient assez de courage pour dire, ben, Dieu n'a pas dit qu'il serait avec moi. Il n'a pas dit qu'il m'aiderait, qu'il apporterait des bénédictions avec mon obéissance. Eh bien, alors j'y vais, je change. J'ai trop longtemps vécu ce domaine dans ma vie, dans la misère, la sécheresse de la vivre loin des principes et de la volonté de Dieu. Donc ça suffit, ici ça ne marche plus. Aujourd'hui, je vais faire mes valises, je vais mettre mon chapeau de cuir, je vais changer ma vie au nom du Seigneur Jésus avec la force qu'il me donne. Et ça vaut aussi par le processus que Loïc est en train de vivre, mais ça vaut aussi pour tout le monde. Tout le monde a des zones comme ça. Ça, c'est l'attitude d'un vrai homme, d'une vraie femme de Dieu, beaucoup plus qu'une force extérieure. Des gens de courage. On va chanter les deux derniers chants qui parlent de cette soif qui apporte la sécheresse et cette volonté de faire la volonté de Dieu. Et à la fin de ces deux chants, on va prier. Mais on peut arrêter l'enregistrement.